Vous êtes bien sur le 107.3 de Radio Alpa et vous retrouvez tout de suite Lydie de la Bibliophage.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur le 107.3 de Radio Alpa et radioalpa.com. On est dans la saison 1, épisode 4 et j'ai comme invité prestigieux Elisa et Fred de la librairie Bulle. Bonjour.
Bonjour.
C'est salut. Mieux.
On va parler un peu de votre parcours, de vos coups de cœur, de ce qui vous motive à aller bosser. Et on va parler de Ginette aussi. C'est important, il faut parler de Ginette. La première chose que je voulais faire, c'était vous présenter le sommaire. Mais le sommaire, ça va être simple. Ça va être l'interview en complet. Et puis, on va finir par un morceau d'MF Doom, comme d'habitude, comme dans toutes les émissions. Donc, tout d'abord, Elisa, dis-moi tout, ton parcours, comment t'es arrivée libraire à Bulle ?
Eh bien, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai j'ai un diplôme de secrétariat, parce que personne ne croyait en moi là où j'étais.
Et choupette
sortez les mouchoirs. Et du coup, j'ai fait des études qui m'étaient prédestinées parce que pas le choix. Et puis l'amour m'a amenée au Mans. Et puis j'ai fait ta rencontre. Et c'est toi qui m'a...
c'est grâce à toi. C'est grâce à moi.
Oui. C'est quand je t'ai rencontré que tu m'as dit tu devrais jeter un œil à l'école de libraire à Laval.
Ah oui, je me souviens de ça.
Ouais. Et du coup, j'ai fait.
Et du coup, t'as fait l'ISM.
J'ai fait l'ISM à Laval.
L'Institut supérieur des métiers.
Exactement. Et
un brevet professionnel de libraire.
C'est ça même parce que j'ai toujours été passionnée par la lecture et mais je pensais que comme j'avais pas le droit de faire des longues études parce que les profs croyaient pas en moi, je m'étais dit que ce serait jamais possible de faire des études de lettres, etc., etc.
Ah ouais. Voilà.
Tu as changé mon destin.
J'ai changé ton destin et j'en suis super fière parce qu'aujourd'hui t'es une libraire accomplie, t'as un rayon, même un étage complet à ta disposition.
C'est ma chambre, ouais. J'ai une grande chambre.
T'as une grande chambre. T'as quoi dans ta chambre ?
Dans ma chambre, j'ai du patrimoine, donc Astérix, Tintin, les grands classiques de la BD, le manga,
ouais,
qui est assez important.
Gros secteur.
Et moi, ce qui me fait vibrer le plus, c'est la jeunesse. C'est la BD jeunesse. Ouais.
On y reviendra plus tard, mais effectivement, la BD jeunesse, c'est assez mal connu. Et pourtant, il y a des belles productions,
ouais,
pour les adultes autant que pour les enfants.
Carrément.
Ouais.
Totalement d'accord avec toi.
Et toi, Fred, c'est quoi ton parcours ?
Ben moi, mon parcours, il me prédestinait pas forcément à être libraire, mais écoute, je suis ravi de travailler là où je suis aujourd'hui. Moi, j'ai fait des études de lettres, en fait. Alors certes, j'avais quand même un fort goût pour le livre, on va dire, mais j'ai fait des études de langue surtout, parce que j'ai fait une fac d'anglais au Mans, et puis j'adorais ça. J'ai fait ça au Mans, ouais.
Ah, moi aussi.
Et ouais. Et j'aimais tellement ça que je suis allé jusqu'au bout, voilà, jusqu'à ce que je puisse plus suivre d'études. Et à l'issue de ça, je me suis bien demandé ce que j'allais faire justement. Donc j'ai fait des petits jobs à droite à gauche. Voilà, je suis parti un peu en Belgique. Et puis pays de la BD, bien évidemment.
Et des frites.
Ouais, aussi, et de la bière, mais n'oublie pas. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé un boulot qui était vachement bien dans la formation professionnelle.
Okay.
Et puis, ce boulot me plaisait beaucoup, mais moi, j'habitais au Mans, et le boulot, c'était à Angers, puis à Paris, donc faire les allers-retours tous les jours, c'était bien, mais je savais que ça me fatiguerait assez vite. Et puis, Samuel, donc le patron de la librairie Bulle, que je connais depuis plus d'une vingtaine d'années, eh bien, m'a proposé de rejoindre l'équipe. Et évidemment, j'ai pas mis beaucoup de temps à réfléchir parce que c'était travailler dans le milieu de la bande dessinée que j'adore depuis que je suis gamin et travailler avec un pote aussi, puisque voilà, on était devenus quand même assez proches. Donc voilà comment ça s'est fait en ce qui me concerne. Et puis je regrette pas parce qu'on s'éclate quand même pas mal.
Ouais, j'imagine, ça a l'air d'être une équipe assez soudée.
Ouais.
Donc vous êtes combien maintenant en tout ?
On est 15.
On est 15, ouais.
15,
ouais.
Ouais. Entre la réception, ceux qu'on voit pas, forcément, l'événementiel, l'espace bis, la caisse, il y a des roulements aussi, il y a des gens qui sont pas là à 35 heures.
Ouais, il y a des temps partiels, effectivement.
Ouais.
Et puis, il ne faut pas oublier aussi tout ce qui concerne le traitement des commandes bibliothèques, qui prend aussi quand même beaucoup de temps. En tout cas, une partie de l'équipe qui est dédiée à ça, y passe pas mal de temps. Donc voilà, ouais, non, c'est hyper riche, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, la gestion du stock, évidemment.
Ouais.
Enfin, voilà, donc c'est un métier très riche, ouais.
Ouais, on va en reparler plus longuement. Tout à l'heure, on va lancer le premier morceau, et c'est un morceau que tu as choisi, Elisa.
Oui.
Un morceau de Fontaine d'ici, c'est lequel ?
Bah, je sais plus. Qu'est-ce que
Starbuster.
Starbuster, ouais. Celui que j'écoute en boucle en ce moment.
Eh ben, on va se l'écouter.
I'm gonna hit your business if it's momentary.
vous êtes bien sur le 107.3 de Radio Alpa et radioalpa.com. Et on a écouté Starbuster de Fontaine DC. Je te remercie, Elisa, parce que j'aime beaucoup ce groupe et j'aime beaucoup ce morceau. Donc, merci de l'avoir amené.
Mais de rien.
Mais si. On va parler un peu du métier de libraire, à quoi ça correspond, à quoi ça consiste, ce qu'on voit pas, ce qu'on sait pas. Et il y en a. Il y en a. Ça commence par quoi? Ça commence par les reprêts, on va dire.
Oui, ça peut être un point de départ, en tout cas, ouais, effectivement.
Ouais. Ouais.
On a donc tous les délégués commerciaux de chaque distributeur qui vient nous voir en boutique. Et donc, on travaille les programmes avec eux. En gros, c'est des programmes de 2 mois, 3 mois.
Ouais, 3 mois, ouais.
Ouais. Et donc, on se positionne. Ils nous présentent donc leur catalogue des 2 ou 3 mois à venir. Et ben, il faut qu'on se positionne directement sur le nombre d'exemplaires que l'on va commander. Mmh. Sur la sélection donc qu'ils nous ont présenté.
Oui, c'est exactement ça. C'est un peu les libraires des libraires, c'est eux qui vont nous conseiller sur ils vont nous présenter les titres qui vont sortir et qui vont nous conseiller sur les pour eux les titres les plus importants du programme par rapport à ce qu'on fait par rapport à notre clientèle aussi.
Ouais, et puis ils ont des placements aussi à faire.
Oui, ils ont des placements aussi à faire.
Ouais, ils ont des enjeux, bien sûr, mais c'est important aussi de leur faire confiance sur leurs enjeux, les suivre aussi, comme ils peuvent nous suivre sur d'autres trucs, des fois, qui peuvent être autres. Mais voilà, c'est vraiment un procédé de bons échanges, en fait, quoi, qu'on a avec eux. Et non, c'est un travail important qu'ils font, parce qu'effectivement, ça nous permet de nous positionner quand même. Il faut qu'on se positionne très rapidement. Donc, on a la chance de connaître quand même plutôt bien notre clientèle aujourd'hui et de savoir ce qui peut aussi plus plaire à notre clientèle et à nos lecteurs. Mais n'empêche que des fois, des titres auxquels on ne croirait pas forcément de prime abord, eux vont nous pousser un peu justement pour qu'on non seulement découvre le titre, mais parce que pour eux, ça représente un petit enjeu. Ouais.
Ouais, ouais. Et donc après les reprêts, parce que les reprêts, donc vous passez les commandes, il y a ce qu'on appelle l'office et le réassort.
Oui.
Alors l'office, c'est ce qu'on va commander auprès du reprêt.
Ouais, c'est toutes les nouveautés.
Toutes les nouveautés. Et le réassort, c'est la commande une fois vendue, en général.
Oui.
Les titres une fois vendus. Donc tout ça passe par le logiciel de gestion.
Mmh. Oui. Nous, notre logiciel s'appelle LibriSoft, mais il en existe plusieurs, effectivement.
C'est un des plus répandus.
C'est un des plus répandus.
Ouais.
Qui nous sert à tout faire. En fait, c'est l'avantage, c'est qu'il y a vraiment la gestion de la caisse, le réassort, les stocks, enfin tout.
La clientèle, tout est dedans. Et après, une fois que tout ça arrive en magasin, ça arrive par colis, les mardis...
Par palette, des fois.
Par palette, ouais. Les mardis et les vendredis.
Mardi et jeudi ou mardi, mercredi, ça dépend.
Mardi, ah ouais. Ok.
Ouais, pour les nouveautés.
Ça a changé.
Ouais.
Et du coup, vous...
Et ben là, on a un collègue qui s'occupe justement de faire ce qu'on appelle la réception de tous ces colis qui arrivent. Et donc, eh bien, lui, c'est un travail de l'ombre, comme tu le disais tout à l'heure, Lydie, puisque lui, il ne travaille exclusivement qu'en réserve. Et donc, il va se charger, eh bien, donc, de réceptionner ces colis dans lesquels, comme tu le disais, il y a à la fois les nouveautés et ce qu'on appelle donc le réassort. Et lui, eh bien, son rôle, ça va être de vérifier qu'il y a bien dans chaque colis, enfin, que ce qu'il y a dans chaque colis, pardon, est conforme à ce que l'on a commandé. Et puis, une fois que ça c'est fait, de mettre tout ça dans notre stock informatique. Et puis, deuxième chose, de contrôler donc, tout ce qui va aller pour la boutique, tout ce qui va pour des commandes bibliothèques et tout ce qui va pour des commandes clients.
Voilà. Bah, voilà. Donc, tout ça, c'est séparé. Et
tout ça arrive ensemble, en réalité.
Ouais.
Mais,
c'est à lui de faire le tri et de tout séparer.
Ouais.
Donc, c'est un vrai taf... qui pourrait paraître ingrat comme ça, mais qui est nécessaire,
essentiel.
Et on les voit pas, ces gens-là.
Non, c'est surtout dommage. Il a des horaires. C'est le seul à ne pas travailler sur les horaires d'ouverture de la librairie. Il vient plutôt le matin. Okay. Qui termine plus tôt aussi, mais comme ça, nous, ça nous permet effectivement d'avoir les nouveautés
à disposition à l'ouverture. Quoi. Et après, c'est rangement. Et rangement, c'est sport, non ? Ouais. Faut pousser les,
Moi, j'aime bien le Tetris. Alors, ça ne me dérange pas. Non, oui, il faut oui, effectivement, des fois, s'arracher un peu quelques cheveux pour trouver la place où mettre, parce qu'il y a de plus en plus de nouveautés qui sortent.
Oui. Mmh.
Il faut savoir hein, que c'est plus de 5000 titres hein, donc ouais. qui sortent à l'année. Donc, on est entre 5 et 6000 titres. Donc, voilà, effectivement, il y a une grosse rotation aussi à faire sur les tables. Donc,
et vous prenez quasiment tout.
Et on prend quasiment tout. Je pense qu'on doit
95%.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc, on a la chance d'avoir une grande structure donc, qui nous permet quand même, malgré tout, même si les murs ne sont pas extensibles, de pouvoir prendre à peu près tout ce qui sort. Ouais.
Et donc... ce qui me fait dire qu'il y a des bouquins qui vont au retour pendant ce temps-là.
Et ouais, c'est une autre partie, effectivement. Ouais. De...
Et parce que s'il y en a qui arrivent en masse, voilà. Il y en a quelques-uns qui doivent partir, si malheureusement.
Place, ouais. Si on place une pile, on en enlève une.
Voilà, on ne peut pas tout garder. Mmh. Et...
C'est l'une des spécificités, hein, effectivement, de la librairie, oui. Enfin des librairies, je veux dire. C'est ce fameux droit de retour. Donc, qui fait que si on avait, par exemple, commandé 30 albums d'un titre et puis que, bah, pour une raison ou pour une autre, le titre se vend pas aussi bien que prévu et qu'il nous en reste 15 sur les bras, eh bien, on va pouvoir renvoyer ces 15 albums
à l'éditeur
qui va nous recréditer après du prix d'achat puisque ces albums, on les aura achetés en premier lieu. Et donc voilà. Et donc, alors dit comme ça, c'est un peu chouette. On pourrait se dire, on peut en commander des tonnes et puis ça marche pas, c'est pas grave, on renvoie tout. Sauf que, évidemment, encore une fois, si quand on les commande comme on les achète, ça fait qu'on pourrait un peu trop jouer avec la trésorerie.
La trésorerie de la librairie n'est pas extensible.
Et voilà, c'est ça. Parce que le temps entre le moment où on les achète et le moment où potentiellement on les rembourse, voilà, ouais. Eh bien, il peut se passer quelques mois et quelques mois qui mettent à mal la trésorerie de la librairie.
Ouais, ouais. D'autant qu'il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé qui est essentiel, c'est le transporteur. Mmh. Et le transporteur, c'est un des coûts aussi majoritaires sur le prix du livre. C'est pas l'auteur, c'est ça non. L'auteur ça, est même plutôt le moins bien loti là-dedans. Et donc du coup il y a les transporteurs et qui font les allées et qui font les retours et tout ça va dans des dépôts pour être ou au pilon ou recasé dans du déstockage
ou dans d'autres librairies.
Ouais. Et donc, du coup, là, on a fait le début de la chaîne. Et puis après, il y a le conseil client.
Exactement.
Et ça, c'est peut-être la partie la plus stimulante.
Ah ouais, bah c'est vraiment là où on a l'impression de faire notre travail de libraire. Hein. Enfin,
Ouais, c'est l'échange qui est hyper important.
Oui, parce qu'avant même de penser à la vente d'un bouquin, il faut penser au conseil, en fait. Hein. Évidemment, même si... la finalité de tout ça, c'est quand même de vendre des livres. Le premier abord, c'est quand même avant tout de le conseiller. Mmh. Et ça, bah, c'est le plus gros de notre boulot, hein, grosso modo. Et surtout, qui dit conseil, dit en amont lecture. Et ça, évidemment, c'est aussi un boulot qui est complètement souterrain, que les gens ne voient pas, puisque ce n'est pas un travail que l'on peut faire sur notre temps de travail, justement, effectif.
Non. Ou très rarement.
Ou très rarement, oui, vraiment sur des périodes très creuses éventuellement. Mais en temps normal, on a déjà tellement d'activités par ailleurs à faire dans la librairie qu'on n'a vraiment pas le temps de lire. Donc, eh bien, ça se fait le soir chez nous, quand on rentre, le midi, quand on déjeune, souvent ensemble, on se retrouve tous là-haut. Et
dans la cuisine, voilà, on a tous un livre différent.
Et là, le choix se fait sur quoi ? Sur l'éditeur, sur votre connaissance de l'auteur, sur votre coup de cœur en amont, sur le fait que le reprêt vous l'a conseillé, sur plein de choses, j'imagine. Ouais, c'est un peu tout ça.
C'est tout ça mélangé, effectivement. C'est chacun fait avec les appétences qu'il a en fonction d'un livre qui vient d'arriver. Effectivement, ça peut être le choix de l'auteur, de l'éditeur, du bouche à oreille, enfin voilà, des réseaux sociaux aussi.
Oui.
Donc, mais on se force pas en fait à lire des trucs. C'est-à-dire que généralement, on va directement vers ce qu'on a envie de lire. Mm-hmm. Et puis après, eh bien, nous, on communique entre nous aussi. C'est-à-dire que...
T'as lu ça.
Ouais, est-ce que tu lis ça bien, ouais. Ouais, ça c'est bien, ça c'est... Ouais, bon, c'est moyen, ceci, cela. Donc après, ça va orienter nos choix de lecture aussi.
Mais c'est ça qui est important, enfin, qui est important et bien à la, dans la librairie. C'est comme on est nombreux et qu'on a tous des goûts différents. Ça nous permet de balayer un grand éventail de lectures par rapport aux sorties. Parce que bon, on peut pas tout lire, on est humain et
non,
on
oui.
a des vies aussi à côté, je crois.
Oui, et oui, je te confirme.
Et du coup, on peut pas tout lire, mais c'est vrai que ah, j'ai lu ça, ou est-ce que toi, ça te tente de lire ça? Je sais que je pense que tu vas aimer, c'est de la fantasy, moi j'aime pas la fantasy, enfin il y a plein de choses hyper différentes, enfin on a tous des goûts différents et du coup on peut se partager les lectures comme ça.
Et donc ça c'est le conseil, donc il y a la vente, il y a l'encaissement, il y a le paquet cadeau et c'est là qu'il y a Ginette. Et à Bulle, c'est une institution. Elle a même eu un reportage sur France 3.
Elle est en pleine fame, là.
Elle a les pieds qui décollent du sol.
Elle arrête pas.
Ginette, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la mère de Samuel. Elle a... Quel âge ?
86
ans. Et elle est toujours à la boutique, le matin la première, le soir la dernière. Et elle fait les paquets cadeaux avec grand plaisir.
Et pas que. Hein,
elle fait du conseil, des colis. Ouais. Oui. Elle fait plein de choses.
Ouais.
Trop, je crois.
Beaucoup trop. Il y a un auteur comme ça qui avait dit à Samuel que, avec un bel accent italien, il avait dit mais ta mère, c'est pas une femme, c'est un cyborg.
Il y a un poste dont on n'avait pas parlé, mais qui est le tien, Fred, aussi, c'est l'événementiel.
Ouais, ça représente une grosse partie de l'activité de la librairie aussi. Ouais. Alors, je ne suis pas tout seul, je fais ça justement avec Samuel.
Ouais.
On travaille tous les deux sur la programmation, puisqu'on a une programmation un peu comme une petite salle de spectacle. Hein, grosso modo, on reçoit deux à trois auteurs par semaine, donc ce qui est quand même assez énorme. On est d'ailleurs vraisemblablement la librairie spécialisée en BD en France qui reçoit le plus grand nombre d'auteurs.
Mmh.
Et donc, bah, ça veut dire quand même préparer tout ça bien en avant. Donc, on essaye de faire notre programmation tous les 6 mois, en fait, pour les 6 mois à venir. Donc, ça veut dire beaucoup de rendez-vous avec les éditeurs, voilà, beaucoup de temps aussi avec les auteurs, bien sûr. Et ça c'est ce qui aussi, à mon sens, fait la vraie richesse de notre métier et surtout de notre métier dans les conditions dans lesquelles on peut le faire aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que grâce... À ce que Samuel a pu impulser depuis des années justement à ce niveau-là, parce que ça fait très longtemps qu'il reçoit des auteurs et comme ça fait vraiment partie de l'ADN de la librairie, on veut pas lâcher ça et voilà, on a la chance de pouvoir croiser des gens fabuleux, quoi, enfin des auteurs que moi j'admire depuis toujours ou presque et c'est des rencontres humaines fantastiques, enfin voilà, donc c'est vraiment bien. Donc ça veut dire que ouais, tous les week-ends on reçoit au moins un ou deux auteurs, parfois en semaine aussi. Et donc ce qu'on essaye de faire maintenant le plus souvent, c'est donc de les accueillir le vendredi soir à la librairie en rencontre, donc on fait une vraie rencontre avec eux, suivie d'une séance de dédicace, et puis le samedi généralement ils restent juste pour dédicacer.
Voilà. Et là cette semaine c'est quoi?
Et cette semaine, on a une thématique science-fiction, puisqu'on reçoit Fred Duval, qui est un scénariste, avec plusieurs de ses dessinateurs, justement trois dessinateurs avec qui il sort des séries en ce moment. Donc il y a MM avec qui il sort Apogée, Philippe Scofoni avec qui il sort Neo Forest, et puis Ingo Romling, avec qui il sort Metropolia. Voilà, donc trois albums de SF. Donc on va faire une belle rencontre, du moins, voilà, j'espère, autour de la science-fiction.
Ah bah ça va être chouette. Rendez-vous à Bulle vendredi et samedi.
C'est ça, vendredi, donc 18h30 pour la rencontre, et dédicace, et puis samedi, dédicace la journée. Voilà.
Ok. Et on va s'écouter le deuxième morceau, c'est un morceau que tu as choisi, Fred, et c'est Tonight We Fly.
Ouais, c'est un de mes morceaux favoris au monde.
Ah ouais, carrément. Et c'est de qui ?
Et c'est de The Divine Comedy.
C'est parti. Vous êtes bien sur le 107.3 de Radio Alpa et radioalpa.com et vous êtes dans la bibliophage saison 1 épisode 4 et on a en invité Elisa et Fred, libraires à Bulle, et on va les laisser nous présenter quelques coups de cœur. Qui veut commencer ?
Bah, apparemment c'est moi.
Alors Elisa, à toi.
Alors j'ai un peu triché, j'ai pris une BD et un roman. Parce que,
t'as raison,
parce que j'ai
on
le
a
droit.
Le droit.
J'ai le droit, c'est pas parce que je vends que des BD que je lis pas d'autres choses.
T'as raison.
Et alors en BD j'ai pris Le pêcheur et la salamandre de Geoffroy Monde et Zoé Simpson. Alors Geoffroy Monde, je crois que c'est sa première BD jeunesse, vraiment jeunesse. Et Zoé Simpson, c'est sa première BD, elle est trop forte. Je suis fan de ses couleurs. C'est publié chez Charivari, qui est un nouveau label des éditions d'Argo. Ils ont sorti plein de choses différentes. Les deux BD jeunesse qu'il y a eu, ça a été des gros coups de cœur les deux. Donc,
Allez.
C'est mon nouveau.
C'est ton nouveau chouchou.
C'est mon nouveau chouchou. Ils avaient sorti Foudroyant et là du coup.
Ah
le
oui,
pêcheur,
Foudroyant a été super.
Ouais. Et du coup, Le pêcheur et la salamandre, qui est un peu différent, mais qui est très bien, c'est. On va suivre deux personnages. Il y a Loon, qui est un jeune vagabond orphelin qui pêche. Voilà, il fait que ça de ses journées, mais en même temps, il a raison parce qu'il est super, super bon pêcheur. Et un jour, il va faire la rencontre d'une salamandre qui veut manger son poisson. Parce qu'il pêche toujours deux poissons, un pour lui, un pour faire une offrande au roi poisson. Et on va savoir pourquoi, je ne vais pas vous le dire, parce que sinon, c'est pas rigolo. Mais la salamandre, un peu la flamme, ne veut pas pêcher. Et du coup, elle décide de le suivre et de lui voler le poisson qu'il avait offert en offrande. Et le poisson roi arrive, il n'est pas content et il va maudire la salamandre. Qui, pour réparer tout ça, va devoir lui pêcher un espadon royal, je crois. Je ne sais plus. Enfin, un poisson légendaire qu'il pêchera.
un légendaire.
Et en fait, si on sait que la salamandre a du mal à pêcher, c'est parce que quand elle est dans l'eau, elle s'illumine.
Ah.
Du coup, ça fait fuir tous les poissons.
Ah oui.
Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est que les deux personnages, du coup, vont s'allier, mais pas vraiment par plaisir. En fait, ils ont tous les deux des caractères forts. Et en fait, ils s'opposent en permanence. Il n'y en a pas un qui prend l'ascendant sur l'autre, comme c'est souvent le cas. Et je trouve ça intéressant. Et le récit sera prévu en deux volumes. Donc j'attends...
Le tome 1 vient de sortir.
Le tome 1 vient de sortir. Et du coup, j'attends vraiment la suite avec le tome 2, voir comment ça va se terminer, tout ça.
Et graphiquement ?
C'est magnifique. C'est vraiment très très beau graphiquement. C'est y a plein de couleurs. C'est hyper riche. Ils ont des bonnes têtes rondes. Non, c'est très beau. Et puis les couleurs sont vraiment incroyables.
Ça donne envie en tout cas.
Ouais.
Ouais. Alors Fred, ton coup de cœur.
Eh ben mon coup de cœur, en fait, était sorti il y a 15 ans, un album merveilleux, qui s'appelle Rebetiko, de David Prudhomme.
Oui.
Ça a longtemps fait partie, je crois, de mes dix albums préférés, je crois, et on ne s'attendait pas du tout à ce qu'un jour puisse arriver une suite. Eh bien, 15 ans plus tard, c'est le cas. L'album s'appelle Rebetissa. Donc, Rebetissa vient de sortir aussi, hein, c'était aux éditions Futuropolis, et donc toujours du même David Prudhomme. Et si je reviens un petit peu en arrière, donc Rebetiko, eh bien, racontait l'histoire donc d'un petit groupe de personnes qui jouent du Rebetiko, donc cette musique grecque qui est une espèce d'équivalent au blues, en fait, du blues grec, mais matiné un petit peu d'influence orientale. Et l'histoire commence dans les années 30, en 36 je crois, au moment où Metaxas, le dictateur grec, arrive au pouvoir et qui va eh bien, vouloir se débarrasser un peu de tous ces types-là parce que on pourrait dire aujourd'hui qu'ils étaient considérés comme des vauriens, ils passaient leur temps...
Les saltimbanques, quoi.
Ouais, les saltimbanques, ils passaient leur temps à fumer du hashish, à boire dans les bars et le soir à jouer de la musique. Mais quelle musique, quoi. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et donc, le premier album, Rebetiko, eh bien, racontait 24 heures de la vie de ces gens-là, qui étaient à la fois des génies absolus de la musique, mais aussi persécutés par les forces de police, parce que, à tel point qu'ils n'avaient plus le droit de se balader avec leurs instruments, etc., parce que c'était devenu un symbole de subversion, un petit peu. Mmh. Et donc, voilà, donc on suivait 24 heures de leur vie. Et puis bah, le deuxième, on reprend exactement les personnages où on les a laissés. En fait, on ne savait pas qu'il y aurait une suite à cet album parce qu'il y avait un début, il y avait une fin. Mais l'auteur avait tellement aimé travailler cette histoire lui-même aussi que, eh bien, il a souhaité continuer un petit peu avec ce tome 2. Et donc dans ce tome 2, comme je le disais, on reprend exactement où s'arrête le tome 1. Le tome 1 se termine sur l'histoire au petit matin et on reprend vraiment à partir de là. Et cette fois, pareil, on suit les mêmes personnages, mais plus axés sur les personnages féminins cette fois.
Okay.
Et c'est éblouissant. Encore 15 ans après, cette nouveauté est toujours aussi éblouissante. David Prudhomme, il a un talent incroyable pour tout ce qui est de l'ordre du mouvement, notamment. Et ça tombe bien parce que eh bien, dans ces fameux bars justement où se produisaient ces musiciens, ces rébètes, eh bien, les gens dansaient bien évidemment.
Ouais.
Et on voit justement tout l'art du mouvement de David Prudhomme à l'intérieur. C'est vraiment grandiose. Et puis là aussi, ce qui est étonnant, c'est que évidemment c'est une bande dessinée, donc évidemment il n'y a pas de bande son, mais grâce justement au talent de David Prudhomme, eh bien on arrive presque à l'imaginer.
On sent la musique.
Ouais, exactement. On arrive à l'imaginer, à voir ce que ça peut représenter. Et c'est fabuleux, quoi. Et c'est justement ce qui est très malin de sa part, c'est que il ne montre pas forcément toujours les musiciens de face, comme ça, vraiment frontal. Mais on voit plutôt les réactions qu'il va y avoir dans la salle, quoi. Et c'est ça qui est très malin. C'est justement, c'est là où on peut s'imprégner, nous, en tant que public qui sommes en train de regarder aussi, eh bien, de se dire, qu'est-ce que ça doit être d'écouter cette musique et quel sentiment ça provoque en fait chez nous, lecteurs, et chez ceux qui écoutent, quoi. Donc voilà, Rebetiko et Rebetissa, c'est paru aux éditions Futuropolis, les deux, et donc les deux sont de David Prudhomme.
Super, merci Fred. Alors Elisa, ton coup de cœur en roman?
Mon coup de cœur en roman, c'est Un bout du monde, publié dans la collection Exprime chez Sarbacane, de Celia Garino, qui est une jeune autrice. C'est son troisième roman.
Donc c'est un roman ado?
C'est un roman ado à partir de 13-14 ans. Et en fait, on suit Kelvin. Kelvin, il s'appelle pas Kevin. Il est pas content quand on l'appelle Kelvin. Kelvin. Donc il a 15 ans et un jour, lorsqu'il avait 10 ans, il est allé au poste de police pour dénoncer ses parents qui ne l'élevaient pas correctement, ni lui ni sa sœur. Il est arrivé à bout et depuis, il est en colère contre l'humanité entière. Ce qui peut se comprendre quand on est dans des bonnes situations. Il a été séparé de sa sœur. C'était sa volonté à lui parce qu'il voulait laisser sa sœur avoir une enfance correcte. Parce qu'il pensait qu'il n'était pas capable de lui apporter du bonheur. De foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. Jusqu'au jour où on l'emmène dans une nouvelle famille d'accueil au bout du monde, qui est en plein milieu de la campagne, une grande ferme, et sa vie a changé, sinon ouais. C'est pas rigolo. Il arrive dans une famille gérée par une dame, Sonja, qui est végétarienne, qui fait des peintures de toutes les couleurs dans toute la maison. Il n'y a pas vraiment de...
Le hippie, quoi.
C'est un peu une babosse. Ouais. Mais elle est cool. Et dans cette famille d'accueil, il n'est pas tout seul. Il arrive en même temps que Yacine, qui est un gamin de 10 ans qui est autiste non-verbal.
Ok.
Et il fait la rencontre de trois autres personnes qui sont là dans la famille d'accueil, dans la maison. Il y a Alicia, qui est une petite fille porteuse de trisomie 21, qui se met à adorer Kelvin alors que lui pas du tout. Et il y a une fille qui ne parle pas du tout, qui passe ses journées devant la télé, elle parle pas, elle regarde personne, tout le temps habillée en noir. Et une autre jeune de 16 ans qui vient d'être mère.
Okay.
Donc on va savoir pourquoi, etc. Mais voilà, une famille qui pourrait penser qu'on pourrait penser que c'est une famille dysfonctionnelle. Et en fait, des fois, il suffit de faire les bonnes rencontres au bon moment et ça fait de belles choses. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce roman qui m'a fait passer par tout un tas d'émotions. J'ai pleuré, j'ai ri, les deux en même temps. J'étais en vacances, je l'ai lu. Du coup, je racontais comme un feuilleton à ma mère à chaque fois que je finissais un chapitre. Alors là, il s'est passé ça. Et ce roman m'a tellement bouleversée que je l'ai tout de suite offert dès que je l'ai terminé, assez vite parce qu'il est vraiment très prenant. À une personne de ma famille qui est dans des situations qui ressemblent un peu à ce que vit Kelvin. Et du coup, voilà, je l'ai lu, je l'ai fini, j'ai fermé, je fais « Tiens, c'est pour toi !» il est super et il y a beaucoup d'espoir.
Super. Un bout du monde de...
Un bout du monde de Celia Garino.
Ok, chez Sarbacane. Exprime. On va s'écouter un nouveau morceau, c'est ton morceau Elisa,
oui.
C'est Steve Amber,
oui.
Et c'est « And I'm still stuck in my head
ouais. »,
c'est ça?
C'est tout à fait ça.
What is
Et vous êtes bien sur le 107.3 de Radio Alpa et radioalpa.com dans la Bibliophage saison 1 épisode 4 avec Elisa et Fred, libraires chez Bulle.
Bonjour.
Bonjour. et je vais, vous avez chroniqué vos coups de cœur, je vais chroniquer le mien. C'est l'heure.
C'est l'heure de la chronique bande dessinée.
Une petite chronique rapide sur Skating Poly de Guillaume Pénichat chez Feu Vite Cocagne. Difficile à trouver maintenant, vous le trouverez que d'occasion parce qu'il n'a pas été réédité pour l'instant, mais j'espère de tout cœur qu'il soit réédité. C'est l'histoire de Polly, cette jeune fille qui va se parer d'un drap de fantôme pour faire du skate dans toute la ville. Et on va la suivre sur son sac quête, faire des figures, passer devant des passants. Et c'est en bichromie, jaune et bleu, et blanc, trichromie, du coup. Et c'est magique. Des détails, si vous aimez le skate, foncez, parce que vraiment les scènes de skate sont très bien retransmises et il y a un fond social aussi. Je vous en dirai pas beaucoup plus pour pas vous spoiler, mais cette petite fille a une histoire un peu lourde, donc voilà, Skating Poly de Guillaume Pénichat chez Vite Cocagne. C'était mon coup de cœur. Et vous avez d'autres coups de cœur, d'autres choses ou des choses à venir?
Ouais, alors en coup de cœur déjà qui sont sortis, il y a le nouveau Fabien Nuri et Bruno qui vient de sortir, Electric Miles.
Oui.
C'est un album qu'on attendait beaucoup.
Ouais. Annoncé la semaine dernière dans l'émission.
Et c'est un album fabuleux aussi, tout le talent des deux là qui est réuni. Donc pour la petite histoire, ils étaient réunis déjà avant hein, sur d'autres séries, puisqu'ils avaient fait Tyler Cross ensemble.
Mm-hmm.
Et vraiment, c'est encore un coup de maître, hein, l'histoire d'un auteur plutôt, donc auteur américain, l'histoire se passe dans les années 40, fin 40, 49 je crois. Et un auteur qui avait beaucoup publié dans des magazines pulp, qui est un peu dans le creux de la vague et qui va rencontrer un agent littéraire qui lui dit « Ah, mais j'adore ce que vous faites, je voudrais absolument vous republier quelque chose. Vous n'avez pas un vieux truc qui traîne dans vos tiroirs ou quoi ?» Et le type au début dit « Oh, pas vraiment. » Et puis finalement, il dit « Si, j'ai peut-être quelque chose pour vous, mais cet album-là, c'est un album qui rend fou. » Enfin, c'est un album, c'est un roman qui rend fou ou qui tue. Voilà, tout va partir de là et on va voir si eh bien, ce roman va être publié ou pas. C'est un premier tome, donc il y en aura, je crois, trois, me semble-t-il.
Ok.
Donc c'est un tome un peu introductif, mais vraiment qui lance beaucoup de promesses déjà, quoi.
Super. Il y a le Crimi aussi qui me fait de l'œil.
Ouais, d'Alex Inker.
Alex W. Inker et Thibaut Vermeaux.
Ouais. Je ne sais plus s'il est avec lui, si c'est possible.
Si, ouais. Ils sont deux, mais ouais, je pense que c'est Thibaut Vermeau. Et toi, Elisa?
En jeunesse, moi j'ai failli apporter Rune, qui est sortie chez Casterman, qui a un chouette récit d'aventure pour 10 ans, avec deux personnages, un garçon assez sensible, et une jeune fille qui, elle, part dans tous les sens. Ils sont aussi orphelins, j'aime bien les orphelins, je crois. Elle est sourde. Et en fait, en passant à travers un tunnel pour fuir des harceleurs, ils arrivent dans un monde complètement fantastique qui est terrassé par un monstre qui veut semer terreur et chaos dans ce monde-là. Où il y a plein de personnages trop rigolos. En fait, on se rend compte très rapidement qu'avec la langue des signes qui a été inventée pour l'album, notre héroïne, Thierry, je crois qu'elle s'appelle, parle en fait la langue des sorciers. Et donc, pourrait potentiellement sauver un peu tout ça.
Ah.
Et le titre que j'attends le plus en BD sort le mois prochain.
Mmh.
En jeunesse, c'est Mimouche.
Ah oui.
De Véro Cazot au scénario et Carole Morel au dessin.
Trop bien. Beau duo.
Ouais, beau duo. Mimouche, donc c'est un début de série. Mmh. Et on suit Colette qui a 11 ans. Et Colette, en fait, elle a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur jumelle. Disons. Et en fait, il va y avoir un accident et Lison va perdre la vie dans cet accident-là. Et en fait, Colette se sent obligée de prendre la place de sa sœur qui était parfaite, près la petite chouchoute de la famille, etc., qui était vachement plus jolie, vachement plus douée en danse classique. Et en fait, 3 ans plus tard, Colette, elle est dans l'adolescence, elle commence à vouloir s'affirmer, surtout quand elle tombe face à un entraînement de boxe. Ouais, une certaine aventure, et elle voit un entraînement de boxe avec des jeunes filles de son âge. Et elle ne sait pas comment elle va réussir à faire accepter cette idée-là par ses parents, parce que c'est dangereux, et puis en fait, c'est bien la danse classique.
Ouais.
Voilà.
Ok. Et ben moi, celui que j'attends le plus, c'est « Nous ne serons pas des héros » de Stéphane Noiry.
Ouais.
Bientôt au mois de mai. Mmh.
Ouais,
les héros du peuple sont immortels.
Les héros du peuple sont immortels. Mmh. Nous ne serons pas des héros, c'est autre chose. Les héros du peuple sont immortels. Ouais. Sur l'histoire de Gilles Bertin.
Bertin.
Décidément. La cavale et autres. Et puis Camera Silence. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte. On va s'écouter un dernier morceau. Fred, tu nous l'annonces?
Ouais, c'est un groupe qui s'appelle 13 and God, avec le morceau qui s'appelle Men of Station. Et c'est un groupe composé de plusieurs groupes, en fait. Hein, du chanteur des No Twist, et puis de tout plein de mecs de chez Anticon. Voilà, Dose One et compagnie. Donc, ça fait un beau mélange.
C'est parti.
Thank you.
et vous êtes bien sur le 107.3 de Radio Alpa et radioalpa.com en direct dans la Bibliophage saison 1 épisode 4 avec Elisa et Fred, libraires chez Bulle. On a passé l'émission ensemble, il est temps de se dire au revoir.
Oh.
Bah oui, je sais, ça passe trop vite, mais je vous réinviterai parce que vous êtes mes chouchous.
Quand tu veux.
Alors voilà, vous pouvez retrouver la Bibliophage sur les réseaux sociaux, sur à peu près tous les réseaux sociaux, même TikTok, @labibliophage.fr. Et puis on va s'écouter le dernier morceau, comme d'habitude, le MF Doom. Et cette semaine, c'est Born Like This, feat. Charles Bukowski, quand même. Allez, c'est parti. Au revoir.
Salut. Au revoir.
Born like this, into this. There's a chalk face's smile. As Mrs. Death laughs. As political landscapes dissolve. As the oily fish spit out their oily prey. We are born like this, into this. Into hospitals which are so expensive that it's cheaper to die. Into lawyers who charge so much, it's cheaper to plead guilty. Into a country where the jails are full and the madhouses close. Into a place where the masses elevate fools into rich heroes. Born into this, walking and living through this, dying because of this, castrated, debauched, disinherited because of this. The fingers reach toward an unresponsive God. The fingers reach for the bottle, the pill, the powder. We are born into the sorrowful deadliness. There will be open and unpunished murder in the streets. It will be guns and roving mobs. Land will be useless. Food will become a diminishing return. Nuclear power will be taken over by the metal. Explosions will continually shake the earth. Radiated men will eat the flesh of radiated men. The rotting bodies of men and animals stink in the dark wind. And there will be the most beautiful silence never heard. Born out of that, the sun hidden there, awaiting the next chapter.
From the realm of alkaloon, smelly gel fume, separating cell womb, to melly mel boom, revelations in braille, respiration inhale, view nations fail, and shaking of a snake tail, make do, blazing swords, trays the haze, praise the Lord, saving grace, lace your broad, she say she bored, a crazy straw, ink and steel, dry paraffin, candy corn crap wrappers pale by comparison. A bad Samaritan averaging above average men. Rants and rants having rambling savages scavenging. For scraps, perhaps roadkill. If that, gift a gab. Annie flowed ill, chrome stiff hat. Note for writing lightning tight lines. Chief and beefing, being off deep ends divine. Bright shines even. Dimes quiet as minds by design. Mighty fine. Slight rewind, tightly bind. Blind lead blind. Need minds now, that was this is then. Listening to sizzling, official tense whispering him again. Metal face finster, playing with the dirty money. Sinister, don't know what he's saying, but the words be funny. Major vet, spaded through the vest with a bayonet. Save your breath, gave a F, pay your debt, they forget. Make a sweat, bullets, crime pays no benefits. Then it gets wilder with more childish and degenerates.
3,000 years ago, Moses said, every human being is responsible for his action. For that being is still a beast, not yet human.
Yodel at your uncle flows, my motorcycle trunk fools. From 2-1 to 1, loose crumbs to chunks and bundles. Hands down, better than what your mans used to get. Standing around for where the translucent loosest spit. Missing wheel, you don't listen, you a field head. Sitting in the kitchen, pissing, twitching, kissing, steel lead. Crime pays no dental nor medical, unless you catch retirement, county, state, or federal. You heard like roaring waters in a seashell. If a tree fell, you couldn't tell from three cell. Be real careful, they telling by the airful. Kids doing skid bids, acting out is terrible. Word is bond, fix your clothes, put a shirt on. Pants sagging back when used to meant you had a skirt on.
squirts posing as thuggers and hustlers. El Elo closer than y'all's ball huggers and jugglers. Motherfuckers.